Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous de vos affaires. Cube Radio.
Le mois de mars marque évidemment le premier anniversaire du début de la pandémie. Cette crise-là a imposé beaucoup de contraintes aux entreprises et au commerce. Et pour faire l'analyse un petit peu de cette année qui a vraiment troublé les citoyens, mais aussi les entrepreneurs puis les commerçants, j'en parle avec Michel Gérard, chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Salut Michel.
Salut Yves.
Deux sujets que je veux discuter avec toi parce que c'était quand même une année assez marquante pour les Québécois. En fait, c'était la plus longue année, en tout cas dans mon existence, où on a parlé autant d'un même sujet pendant presque 12 mois. Mais il y a un sujet qui est revenu vraiment et qui a fait l'objet beaucoup de tes chroniques, c'est l'emploi et les finances publiques. Jeudi dernier, les Statistiques Canada ont sorti des chiffres qui sont intéressants sur, au-delà des stats de StatsCan sur le chômage. Il y a ce qu'on appelle un sondage qui voit la question des chèques de paie puis les heures travaillées. Et on s'aperçoit finalement que déjà en janvier, là, il semble que la reprise est beaucoup plus difficile qu'il s'y attendait. Donc, comment toi tu vois la situation de l'emploi depuis le début de la pandémie, puis comment tu vois cette évolution-là? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être en forme de W pour l'emploi? Ça va être quelque chose qui va être en U, où est-ce que tout à coup, là, la reprise va arriver, puis ça va partir, puis là, le monde va être en mode de recrutement? Comment tu vois la situation de l'emploi?
Bien, en fait, comment je vois ça? Écoute, ça va dépendre évidemment de la COVID et puis de l'efficacité du vaccin pour nous permettre de passer à travers l'épreuve. Or, c'est sûr que si on revient avec une troisième vague, manifestement, l'emploi va encore manger une claque. Or, parce que l'emploi est tributaire, évidemment, de la reprise économique. La reprise économique, ben, est tributaire, elle, de la vitesse avec laquelle on va pouvoir vacciner les gens dans chacun des pays. Là, on sait que du côté de notre principal partenaire, ce sont les États-Unis, et aux États-Unis, ben écoute, ça semble aller rondement du côté de la vaccination, mais nous, du côté canadien, écoute, on n'en est qu'au premier balbutiement. Là, on nous a annoncé que, bon, ça commençait pour vrai au Québec. Ben, on verra bien à quelle vitesse que la vaccination va se faire.
Alors, jusqu'à présent, Michel, jusqu'à présent, là, est-ce qu'on a récupéré pas mal des jobs qu'on avait perdus depuis, mettons, mars ou avril, où on est encore dans une situation où ce que on en perd, on en gagne à chaque mois? Parce que nous, on...
En fait, je crois, là, il nous en manque à peu près 200 000 par rapport aux 800 000 qu'on avait perdus en mars dernier et avril. On en a récupéré 600 000. Il nous en reste à peu près 200 000 à récupérer. Et bon, là, c'est sûr que le mois de janvier n'a pas bien été parce qu'on était en confinement. Et puis là, presque la totalité du mois de février également. Donc, c'est ça. Il nous en manque à peu près de 200 000, de 210 000. Alors, ce qui est énorme en passant, hein, je rappelle que dans les promesses électorales, à chaque fois qu'on avait une campagne électorale, on nous promettait de créer 200 000 jobs. Mais oui, là, nous, on a perdu 800 000 en un mois et demi. Et puis, il nous en reste 200 000 à récupérer. Ne serait-ce que pour rattraper le niveau d'emploi du mois de février, il y a un an, là, février 2020. Or, fait qu'on est rendu à ce stade-là. Or, c'est sûr que, regarde, là, si tôt qu'il va y avoir reprise sérieuse de l'économie, évidemment, jumelé à la vitesse avec laquelle on va vacciner les gens, ben, on va récupérer nos emplois. Moi, je suis pas inquiet pour la récupération de l'emploi, je suis juste inquiet pour le temps que ça va prendre pour le faire, dépendamment de la vitesse de la vaccination. C'est vraiment l'élément clé, hein, la vaccination de la population, non seulement au Québec, au Canada, mais également à travers le monde, parce que, qu'est-ce que tu veux, l'économie mondiale se reflète sur l'ensemble des économies local.
Nous sommes avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, évidemment, là, beaucoup de nos entreprises au Québec, là, ça n'allait pas bien avant la pandémie. La pandémie est venue faire le trouble-fête pour plusieurs d'entre eux. Mais évidemment, la sortie de cette crise-là, là, qui commence, à, évidemment, comme tu dis, avec le début de la vaccination, potentiellement, là, il y avait des entreprises que ça n'allait pas bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui, là, ils ont vu que peut-être qu'ils vont refaire leur modèle d'affaires, la façon qu'ils vont fonctionner. Moins de monde dans les tours à bureau. Ils vont probablement avoir automatisé, pendant cette période-là, beaucoup de leur production, tout ça. Y a-t-il des chances que, évidemment, les gens vont regarder le portrait et vont dire on va être capable de faire plus avec moins à la sortie de cette crise-là?
Ben moi, je pense sincèrement, là, on est forcé à faire, comment dire, une espèce de modernisation de nos entreprises à cause du télétravail. Puis c'est sûr qu'un pourcentage, là, il est élevé, le télétravail, mais il va en rester en tout cas un pourcentage assez élevé. Donc, ce qui veut dire que ça va changer pour plusieurs entreprises le modèle du travail. Alors, c'est sûr que ça aidera pas les tours à bureau. Mettons que c'est un secteur qui risque de connaître une mauvaise passe encore pour assez longtemps. Alors, mais moi, oui, t'as raison de dire ça vient forcer tout le monde à moderniser tout ce qui est travail, selon évidemment le secteur dans lequel on est.
Michel, évidemment, je veux te parler d'un sujet qui, bon, évidemment, là, pour le moment, tout le monde ne questionne pas vraiment l'argent qui est investi pour aider les entreprises. Là, évidemment, tu as vu quand même Justin Trudeau là, avec les nombreux programmes d'aide de la PCU à la question de l'aide aux entreprises. La même chose ici à Québec avec toutes sortes de programmes pour de garanties de prêts. Mais à un moment, ça va se terminer ou en tout cas, ça va diminuer. Mais il n'y en demeure pas moins qu'on a investi beaucoup. Est-ce que on a atteint un niveau, là, tu sais, on a étiré l'élastique des finances publiques, puis là, il pourrait nous péter dans le visage, ou on a encore du jeu pour étirer cet élastique-là?
Au Canada, malgré la forte hausse du déficit fédéral, il va s'en dire, écoute, pour l'année 2021, là, qui va se terminer le 31 mars prochain, là, on va être dans le trou de 400 milliards. Alors, évidemment, c'est du jamais vu. Mm-hmm. Et c'est énorme. Et ça a fait grimper la dette, évidemment, fédérale d'autant. Or, puis quand on dit la dette fédérale, tout le monde la paye, la dette, hein? Toutes les provinces, tous les Canadiens, nous compris, évidemment. Or, au miracle, quand on se compare aux autres pays du G7, mettons, aux autres pays industrialisés, là, notre niveau de dette reste relativement bas par rapport aux autres pays. Tu sais, notre dette fédérale par rapport au PIB là, est autour de 51% au moment où on se parle là, avec le déficit de 400 milliards. Alors, aux États-Unis, tu sais, ça... C'est 100% ou même plus là, puis dans plusieurs pays. Donc, quand on se compare, évidemment, on est en bonne situation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est pas les autres qui payent notre dette, hein. C'est nous-mêmes qui allons devoir la payer. Et puis, plus tu augmentes la dette, évidemment, la génération actuelle, tu sais, ça va bien pour nous. Parce qu'on reporte le paiement à plus tard, mais les générations futures, ce sont elles qui vont écoper. Et puis à un moment donné, ta décision, quand tu vas présenter les prochains budgets annuellement, les gouvernements font, t'as deux choix. Ou bien tu augmentes les impôts, ou bien tu coupes dans les programmes. Il est là le risque. Or, tu sais, ça va bien aller là, pendant encore 3-4 ans, surtout qu'on est dans une année électorale au fédéral, on s'entend-tu qu'ils vont pas couper, là? Mais ça vient fausser un peu l'avenir budgétaire. Mais quand on se compare, c'est pas si inquiétant que ça. Du côté du Québec, bien évidemment, on sait bien qu'il y avait eu un redressement marqué des finances publiques, mais là, à cause de l'année désastreuse de la pandémie du coronavirus, on se retrouve dans le trou de 15 milliards pour le Québec. Mais encore là, parce que la situation s'était redressée, il y a rien de dramatique pour l'heure. Bon, mais comme je te dis, à un moment donné, il y a une décision qui va être prise. Ou tu coupes les programmes, ou bien tu augmentes les impôts. Mais déjà, nous au Québec, on a la particularité d'être assujetti à la plus forte ponction fiscale de toutes les provinces.
Mm-hmm.
Ça fait que, tu sais, quand le gouvernement Legault, le ministre des Finances, Éric Girard, dit « Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse d'impôts », ben oui, mais j'espère bien, on est déjà de ceux qui sont les plus taxés et les plus imposés au pays.
On analyse la première année de la pandémie avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, dans un dernier numéro du magazine Le Point, il y avait un dossier complètement sur la dette. Puis l'Europe est aussi frappée, comme tous les autres pays, par rapport à la dette publique. Et ce qui est intéressant, c'est poser un certain nombre de questions, et j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Pourquoi ne pas annuler la dette publique qui va s'avoir accumulée avec la pandémie?
Pourquoi pas ne pas l'annuler?
Oui.
Mais c'est parce que tu la dois à quelqu'un, la fichue de dette, là.
Exactement. Et là, la question qui se posait, cette dette-là, là, elle est financée comment? Tu sais, on dit on imprime de l'argent.
Par les émissions. Non, mais en émettant en faisant des émissions d'obligations sur les différents marchés. Autrement dit, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il a sa dette et puis il émet des obligations, comme les entreprises font pour se financer, des débentures ou des obligations corporatives. Dans le cas du gouvernement, on émet des obligations. Et puis là, tout un chacun peut acheter les obligations. Alors, puis ça te rapporte un rendement. Donc, la chance qu'ont actuellement les gouvernements partout dans le monde, c'est que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Tu vois, le Canada, là, et c'est ça que Trudeau disait, puis il n'y avait pas tort là-dessus. À un moment donné, on disait, mais pourquoi vous avancez tant que ça là, avec le déficit? Ben, il dit, nous, le gouvernement, à cause de la faiblesse des taux d'intérêt, on a la capacité d'emprunter, puis ça coûte pas cher, à comparer à l'individu qui, lui, pour emprunter, ça va coûter 7, 8, 9 %, tandis que le gouvernement se finance à du 1 %, 1 % et demi. Elle est là, toute la nuance. Donc, mais il faut que tu la payes, la dette. Puis le problème, c'est que si les taux d'intérêt se remettent à monter, ce qui va se produire inévitablement, parce qu'actuellement, là, faut pas oublier qu'on maintient artificiellement les taux d'intérêt à un niveau plancher. C'est artificiel. C'est pas ça, la vraie vie, là.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a de l'inflation, puis techniquement, là, il faudrait que les taux soient peut-être du 2, du 3, puis, tu sais, plus élevés qu'à l'heure actuelle, là, pour le financement des gouvernements.
Bon. Mais Michel, je reviens sur le financement, là, de qui les achète, ces obligations-là, que le gouvernement émet. Est-ce que c'est pas notre propre banque centrale qui les achète?
Ben, c'est-à-dire qu'elles interviennent, les banques centrales, la Réserve fédérale américaine, la Banque du Canada, puis les autres banques centrales sont intervenues effectivement, et elles rachetaient sur le marché. Elles en rachetaient, mais elles ne rachetaient pas la totalité, là, on s'entend, là. Alors, ce qui veut dire que ce sont les caisses de dépôt de placement à travers le monde qui achètent ces produits-là. Quand on parle de titres de revenus fixes, comme la caisse de dépôt, là, quand elle nous dit là, qu'elle a tel rendement avec ses titres à revenus fixes, mais c'est ça, là. Elle achète, elle aussi, là, des obligations fédérales ou des obligations provinciales. Et mais c'est sûr que les banques centrales, exceptionnellement dans le cadre de la crise économique qu'on vient de vivre, ont racheté énormément. Autrement dit, c'est le principe qu'elles, c'est comme si elles imprimaient de l'argent. C'est l'équivalent d'imprimer de l'argent. Mais ça, là, tu peux pas utiliser ce modèle-là, comprends-tu, tout le temps, parce que ça tient pas, ça, économiquement parlant, là. Ça peut pas tenir, cette histoire-là.
Mm-hmm.
À court terme, ils ont retrouvé que le remède fonctionnait, mais à long terme, ça pourra pas marcher.
Bon, ben Michel, je pense qu'on a fait vraiment le tour de l'horizon de ce un an de pandémie. Puis là, ton cadran sonne pour nous dire que c'est peut-être la fin de la...
signaler que t'as fini.
Non, que c'est la fin de la crise. la crise sanitaire et le début de la relance économique.
C'est le signal.
C'est le signal. Michel, merci beaucoup de ton analyse. Donc, c'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Merci.